Mémoire d'un continent.
Elikiem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Histoire générale de l'Afrique, l'Afrique globale. Il en est de l'histoire comme des autres sciences humaines. Les connaissances à peine sont-elles établies que l'on est déjà en train de les remettre en cause, voire de les renouveler de fond en comble. Ce qui s'est passé avec l'histoire générale de l'Afrique, on le sait, c'est une initiative à la fois politique et savante de la part des gouvernements et des spécialistes africains, mais aussi de ce qu'on appelait le monde noir dans sa présence à travers les divers continents. Une initiative qui datait du début des années 60, au moment où le continent africain devient indépendant, mais aussi au moment où, dans le reste du monde, en Amérique du Nord, aux États-Unis, mais aussi en Amérique du Sud, je pense en particulier au Brésil, dans l'espace caribéen, notamment avec la révolution cubaine en 1959, où donc dans toutes ces parties du monde, on a vu émerger ou réémerger de la manière la plus visible, parfois spectaculaire, la capacité d'initiative du monde noir. Du coup, les volumes, les 8 volumes de l'histoire générale et les volumes des textes et documents publiés dans les années 1980 et 1990 restent bien sûr valables, mais comme dans toutes les sciences, ces volumes sont aujourd'hui non pas remis en question, mais réinterrogés pour voir si on peut aller beaucoup plus loin. C'est dans ces conditions que l'UNESCO a conçu l'idée de réunir un nouveau comité scientifique chargé d'écrire le volume 9 de cette histoire générale de l'Afrique, un volume qui se subdivise déjà en 3 livres, donc 9.1, 9.2, 9.3. Volume qui n'est pas chargé seulement de mettre à jour les connaissances, mais qui se préoccupe aussi de faire émerger des thématiques nouvelles, des questions, des connaissances nouvelles, et c'est ainsi qu'est apparu le concept d'Afrique globale. Dans les 8 précédents volumes, évidemment, la présence de l'Afrique dans le monde n'était pas du tout remise en question, à la fois quand on sait que l'Afrique a été définie comme berceau de l'humanité, quand on sait également tous les mouvements, hélas souvent forcés, par lesquels les Africains ont été transportés à travers le monde, mais aussi les mouvements de résistance, de création dans ces nouvelles terres. Avec nous, nous recevons aujourd'hui pour Mémoire d'un continent, Yolanda Wood. Bonjour Yolanda.
Bonjour.
Yolanda, vous êtes historienne d'art, professeure à l'Université de La Havane, et vous êtes aussi membre du conseil de direction de la Casa de las Américas, de la Maison des Amériques, dont nous aurons l'occasion de parler dans d'autres émissions. Et vous avez participé à la réunion qui vient de se tenir à La Havane, à Cuba, réunion, 5e réunion du conseil scientifique de ce 9e volume. Et vous avez présenté un texte très important sur l'Afrique globale. Alors, avant qu'on voit un peu dans les détails, Afrique globale, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pensez aux problématiques de la mondialisation, comme on dit, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus large et, je dirais, de beaucoup plus profond?
Exactement, je pense que l'Afrique globale, c'est un concept qui va plus loin de l'idée de la globalisation et la mondialisation, et c'est une sorte effectivement de déplacement humain à travers le monde qui s'est pas marqué par les idées européennes qui se sont établies avec la modernité autour de l'idée de l'esphéricité, autour de l'idée d'un marché qui puisse s'élargir vers tous les pays qui ont été sous la conquête de l'Espagne et d'autres territoires et métropoles européennes. Alors c'est pourquoi je dis que l'Afrique globale c'est transversal, elle traverse l'espace et le temps, et c'est profondément humaniste, parce que c'est le composant humain qui est l'essentiel pour comprendre tout cet univers de références africaines qui vont former des nouvelles cultures dans le monde, et c'est essentiel comprendre la manière dont l'Afrique nous traverse.
Et donc tous ces concepts qu'on entend d'ailleurs parfois encore aujourd'hui, par exemple dans la question de la mondialisation, on parle du centre ou des centres, l'Europe, les États-Unis, et des périphéries. Donc la diaspora africaine se trouve rejetée dans les périphéries, alors que vous renversez les choses pour montrer que ce qu'on appelait les périphéries, c'est peut-être là que notre monde s'est créé, est en train de se créer.
Oui, et ces divisions du monde entre centre, périphérie, c'est une conception qui devient aussi de tout cet aspect de la modernité vu de la perspective des pays coloniaux. Mais évidemment, je pense que ce que c'est important à remarquer dans le cas de l'Afrique globale, c'est que l'Afrique est aussi au centre. Ça veut dire, c'est pas seulement dans les espaces que la géopolitique culturelle, on peut dire, a défini ou ont été définis comme des périphéries. Et l'Afrique est partout. Les premières esclaves qui sont arrivées à la Caraïbe avec la expansion coloniale de l'Espagne, ils sont venus de l'Espagne même. Ils étaient déjà là. Ça veut dire qu'il y avait un concept d'esclavage qui est né avec la modernité, avec la force des idées européennes de devenir un centre de force dans le monde, mais ils utilisaient déjà la main d'œuvre esclave provenue de l'Afrique. Alors
oui,
qu'il y a,
on pense toujours que c'est la grande traversée indirecte de l'Afrique vers l'Amérique. En fait, ça a commencé déjà de l'Afrique vers l'Europe.
Exactement, ça a commencé déjà avant, et bien sûr, ça va arriver à avoir des conséquences énormes au niveau de la traite et de l'esclavage atlantique. Et ce que je trouve le plus intéressant dans ce concept de l'Afrique globale, au niveau méthodologique, au niveau épistémologique, c'est justement comprendre comment à l'intérieur de cette appelée périphérie, il va naître une nouvelle culture. Et cette culture, elle est absolument nécessaire à avoir en compte l'Afrique.
Oui, Yolanda Wood, vous utilisez la métaphore du fleuve. C'est une métaphore très importante puisqu'on sait que justement le Nil, le Niger, le Congo, l'Amazone, c'est tout ceci, c'est important. Donc métaphore du fleuve pour dire quoi? Le lien, le fleuve nourricier.
Alors c'est vraiment une idée qui a été apportée dans nos réunions, et je le citais dans mon texte, pour la Bayini. Et j'ai trouvé exceptionnelle cette idée dans la perspective de l'Afrique globale, et c'est pourquoi je l'ai repris, parce que je pense que le fleuve, c'est la dimension de la courant d'eau, et si l'eau marche, où va l'eau, va le monde, va les gens. Alors que ça sert pour déplacer les gens. Et quand les gens se déplacent, avec eux, il va sa culture. La culture va avec eux. Et alors que j'ai trouvé magnifique cette idée, moi je l'élargis un peu plus en disant que bien qu'on peut imaginer cette idée de fleuve, de courant culturel qui se déplace avec les Africains par le monde, je pensais qu'il s'agissait pas seulement d'un fleuve, je disais d'une hydrographie culturelle. C'est toute une hydrographie, c'est un mouvement humain extraordinaire, plein de richesses qui est partout. Et je pense que la réalisation de ce bouquin, de ce volume autour du sujet de la diaspora, va mettre en évidence la dimension, la signification, pas seulement de l'Afrique comme berceau de l'humanité, c'est déjà très important, sinon en même temps, comment ça a influencé, comment ça a décidé la formation culturelle de nos pays, dès la modernité jusqu'à nos jours.
Bon, il y a une histoire, toute une histoire culturelle dont nous allons parler, mais je veux quand même souligner que, bien sûr, comme en Afrique même, comme au Moyen-Orient, notamment en Irak, comme en Europe, il y a des phénomènes de résistance, et l'Amérique latine a été, le continent américain, un continent très très important sur les capacités d'initiative et des résistances de ces Africains, des choses énormes.
Oui, parce que justement, la condition d'esclavage dans laquelle on les a confinés, les hommes, les femmes venus de l'Afrique, dans le cas particulier surtout de la Caraïbe, ça a créé une situation très particulière, que c'était la conscience coloniale d'une déculturation. Et toute l'intention coloniale d'effacer la mémoire. Et pour la conserver, c'est incroyable. On a tout fait, les colons ont tout fait pour effacer cette mémoire. Et cette mémoire est renaît dans nos pays. C'est incroyable. Et comment, on se demande, ça a pu renaître? Et c'est surtout par la résistance. La résistance qu'il faut l'avoir dans plusieurs domaines. Je dirais, il y a un côté très important, que c'est quand l'esclave fuit. De la plantation, et il s'installait dans la forêt, il s'installait dans les cavernes, alors qu'il créait là-bas un espace de liberté, si tu veux. Alors ça, c'est une manière de la résistance très importante. On a des exemples magnifiques jusqu'à nos jours, le palenque de San Basilio par exemple, que c'est patrimoine de l'humanité, et bon, il y en a plusieurs exemples, mais évidemment il y a une autre forme, à mon avis, si important comme la résistance de palenques, de quilombos, que c'est à l'intérieur même de l'espace de la plantation. Je l'appelle, comme a dit le Moreno Fraginal, un grand étudieux qui a étudié beaucoup tous ces sujets, et il s'appelle d'une sorte de clandestinage culturel à l'intérieur de la plantation. Ça veut dire, c'est le silence, c'est la complexité d'une pensée qui se garde et se protège pour exister. Ça, c'est incroyable, parce que nous parlons de quelque chose de monumental. On ne parle pas de 15 personnes, de 10 personnes, on parle des millions de personnes qui ont résisté et ont fait possible quelque chose de monumental, d'avoir chez nous, dans nos pays caraïbes, dans l'Amérique, une conscience d'existence d'une relation avec l'Afrique qui est essentielle. Ça a été essentiel. Alors, la résistance, dans toute sa diversité des formes, c'est fondamental pour comprendre comment la mémoire africaine a pu résister, soulever le niveau de la déculturation établie.
Nous sommes avec Yolanda Wood, professeure d'histoire de l'art à La Havane, à Cuba. Bien sûr, cette créativité africaine dans les Amériques est très importante, mais vous expliquez que la Caraïbe est, avec le Brésil, peut-être le cœur, le noyau de cette Afro-Amérique. Je voudrais rappeler aussi, pour nos auditeurs qui peut-être ne suivent pas cette dimension de l'histoire culturelle, que Fidel Castro avait l'habitude de dire que Cuba est un pays latino-africano-américano. Donc cette synthèse dans laquelle, cette synthèse culturelle, artistique aussi, dans lequel les corps des individus, leur production culturelle, les danses, les chants, traduit justement cette créativité qui continue jusqu'à aujourd'hui.
Oui, parce que Nicolas Guillén, il disait, le grand poète cubain, est très impliqué dans cette synthèse de la présence africaine chez nous, et il disait justement que les noms des Africains avaient été effacés dans l'encre des notaires. Et c'est une belle phrase qui parle justement de cet intérêt de tout enlever. Et en même temps, on ne le permettait pas aux esclaves, aux personnes esclavisées, on ne permettait pas d'avoir des objets qui pourraient signifier le rapport avec sa culture d'origine, alors qu'il a fallu tout refaire. Et c'est un autre aspect très monumental de cette question qu'on parle, parce qu'il a fallu se reconstituer comme individu culturel et le faire avec des nouveaux matériaux, avec des nouveaux moyens. Alors c'est là la synthèse la plus importante. C'est pas seulement que ce qui s'est déplacé de l'Afrique, c'est comment l'Afrique a dû se reconstituer dans le contexte caribéen, latino-américain en général, et c'est pourquoi la nature a été essentielle. Qu'est-ce qu'ils avaient, eux? Ils avaient la nature et ils avaient son corps. Et c'est à partir le corps et à partir là le rapport avec la nature qu'ils ont pu reconstituer et faire la synthèse d'une relation entre ce que les colons imposaient comme idéologie, comme manière de penser, comme religion et sa, ses propres idées. Alors que tu vois par exemple une vierge, la nôtre, la patronne de Cuba, que c'est la Vierge de la Caridad del Cobre, mais pour eux, ils déposaient là-dedans des autres signifiants. Et ça leur apportait un rapport avec le terroir, la terre d'origine. Et ils pensaient que là était l'eau douce, qu'il était la force de la nature, par exemple à Chango. Alors, ils ont fait la transculturation, comme l'appelait Fernando Ortiz. C'est quelque chose d'unique. Absolument unique. Et ça donne à la culture latino-américaine et surtout caribéenne, parce que comme tu disais, bien que qu'Afro-Amérique, c'est pas un pays, c'est pas un territoire, c'est quelque chose que tu ne peux pas physiquement déterminer, parce que c'est culturel, absolument culturel. Et alors, et cette Afro-Amérique, disait Nancy Morejón, le cœur de l'Afro-Amérique est dans la Caraïbe. Et je pense, je suis d'accord. Je pense que la manière dont l'Afrique s'est restituée dans nos pays, c'est extraordinaire. Et ça produit des expressions dans tous les sens. Dans la musique, dans les arts visuels, dans, et surtout lié, et ça c'est très important, à la constitution d'une idée nationale. Ça veut dire que quand nos pays sont pensés sa culture nationale, l'Afrique était déjà dedans. Alors, c'est une Afrique qui nous appartient. Excusez-moi tous les Africains, mais nous sommes aussi Africains. Je ne veux pas la faire venir, mais elle est là, elle est dedans.
Et en même temps, Yolanda Awood, cette Afrique est dans le monde. Vous avez cité Nicolas Guillén, vous avez cité aussi le grand Fernando Ortiz, mais vous citez aussi les grands esprits de tout le XXe siècle, Picasso notamment.
Parce qu'effectivement, en ce moment où les intellectuels, les artistes dans nos îles sont en train de penser à comment trouver une expression nationale dans les arts, comment exprimer le sentiment d'une identité culturelle, nationale, du pays, différent à celle de la métropole. Et évidemment, c'est le moment des avant-gardes européennes. Alors que ça nous arrivait aussi par une autre voie. Et beaucoup des artistes, bon, je parle surtout de Wilfredo Lam, parce que c'est une figure paradigmatique dans cet aspect, mais on pourrait mentionner beaucoup d'autres. Ils sont effectivement reconnus l'importance de la tradition visuelle africaine à partir de Picasso, à partir de l'expérience d'exploration et recherche sur l'art africain qui se faisait en Europe. Mais notamment, ce que Wilfredo Lam a fait, c'est une autre chose. Ça veut dire prendre toute la nouveauté que l'avant-garde donnait comme expérience visuelle, tout ça qui venait de l'Afrique. Wilfredo Lam n'a été jamais en Afrique, c'est que c'est intéressant à dire, alors qu'il partait de son expérience. Quelle était son expérience? La culture populaire cubaine, la tradition populaire cubaine, mais il savait parfaitement que, par exemple, un paysage de canne à sucre, comme c'est, par exemple, la jungla, là-dedans, il y avait des autres choses. C'est les esprits de la terre qui habitent à l'intérieur. Et ça nous vient absolument de la tradition de la pensée africaine, qui a fait vivre tous les lois, tous les orishas, dans l'espace de liberté qu'il connaissait. Et cet espace de liberté n'était pas la plantation, n'était pas la maison du maître, c'était la nature. C'est l'espace de liberté par excellence. Et voilà comment Wilfredo Lam, dans la jungla de 1943, et il a composé cette idée de la transmutation entre l'humain, l'animal, le végétal. Et ça nous vient absolument de la mythologie et de la croyance mythologique et mythique de la terre africaine.
Merci à vous, Yolanda Awood, d'être venue à nos micros, micros de Mémoire d'un continent, émission réalisée par Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.